Livre 9, troisième partie. Outre cet objet de mœurs et d'honnêteté conjugale qui tient radicalement à tout l'ordre social, je m'en fis un plus grand secret de concorde et de paix publique. Objet plus grand, plus important peut-être en lui-même, et du moins pour le moment où l'on se trouvait. L'orage, excité par l'encyclopédie, loin de se calmer, était alors dans sa plus grande force. Les deux parties, déchaînées l'un contre l'autre avec la dernière fureur, ressemblaient plutôt à des loups enragés, acharnés à s'entre-déchirer, qu'à des chrétiens et des philosophes qui veulent réciproquement s'éclairer, se convaincre et se ramener dans la voie de la vérité. Il ne manquait peut-être à l'un et à l'autre que des chefs remuants qui usent du crédit pour dégénérer en guerre civile. Et Dieu sait ce qu'eût produit une guerre civile de religion où l'intolérance la plus cruelle était au fond la même des deux côtés. Ennemi né de tout esprit de parti, j'avais dit franchement aux uns et aux autres des vérités dures qu'ils n'avaient pas écoutées. Je m'avisais d'un autre expédient, qui, dans ma simplicité, me parut admirable. C'était d'adoucir leur haine réciproque en détruisant leurs préjugés, et de montrer à chaque partie le mérite et la vertu dans l'autre, digne de l'estime publique et du respect de tous les mortels. Ce projet peu sensé, qui supposait de la bonne foi dans les hommes, et par lequel je tombais dans le défaut que je reprochais à l'abbé de Saint-Pierre, eut le succès qu'il devait avoir. Il ne rapprocha point les partis, et ne les réunit que pour m'accabler. En attendant que l'expérience m'eût fait sentir ma folie, je m'y livrais, j'ose le dire, avec un zèle digne du motif qui me l'inspirait. Et je dessinais les deux caractères de Volmar et de Julie dans un ravissement qui me faisait espérer de les rendre aimables tous les deux, et qui plus est, l'un par l'autre. Content d'avoir grossièrement esquissé mon plan, je revins aux situations de détail que j'avais tracées, et de l'arrangement que je leur donnais résultèrent les deux premières parties de la Julie, que je fis et mis au net durant cet hiver avec un plaisir inexprimable, employant pour cela le plus beau papier doré, de la poudre d'azur et d'argent pour sécher l'écriture, de la non-pareille bleue pour coudre mes cahiers. Enfin, ne trouvant rien d'assez galant, rien d'assez mignon pour les charmantes filles dont je raffolais comme un autre Pygmalion. Tous les soirs, au coin de mon feu, je lisais et relisais ces deux parties aux gouverneuses. La fille, sans rien dire, sanglotait avec moi d'attendrissement. La mère, qui, ne trouvant point là de compliments, n'y comprenait rien, restait tranquille et se contentait, dans les moments de silence, de me répéter toujours « Monsieur, cela est bien beau !» Madame d'Épinay, inquiète de me savoir seule en hiver au milieu des bois, dans une maison isolée, envoyait très souvent savoir de mes nouvelles. Jamais je n'eus de si vrais témoignages de son amitié pour moi, et jamais la mienne n'y répondit plus vivement. J'aurais tort de ne pas spécifier parmi ces témoignages qu'elle m'envoya son portrait et qu'elle me demanda des instructions pour avoir le mien peint par Latour et qui avait été exposé au salon. Je ne dois pas non plus omettre une autre de ces attentions, qui paraîtra risible, mais qui fait trait à l'histoire de mon caractère par l'impression qu'elle fit sur moi. Un jour, qu'il gelait très fort, en ouvrant un paquet qu'elle m'envoyait de plusieurs commissions dont elle s'était chargée, j'y trouvai un petit jupon de dessous, de flanelle d'Angleterre, qu'elle me marquait avoir porté et dont elle voulait que je me fisse un gilet. Le tour de son gilet était charmant, plein de caresses et de naïveté. Ce soin, plus qu'amical, me parut si tendre, comme si elle se fût dépouillée pour me vêtir, que, dans mon émotion, je baisais 20 fois en pleurant le billet et le jupon. Thérèse me croyait devenue fou. Il est singulier que, de toutes les marques d'amitié que Madame d'Épinay m'a prodiguées, aucune ne m'a jamais touchée comme celle-là. Et que même, depuis notre rupture, je n'y ai jamais repensé sans attendrissement. J'ai longtemps conservé son petit billet, et je l'aurais encore s'il n'eût eu le sort de mes autres lettres du même temps. Quoique mes rétentions me laissassent alors peu de relâche en hiver, et qu'une partie de celui-ci je fusse réduit à l'usage des sondes, ce fut pourtant, à tout prendre, la saison que depuis ma demeure en France, j'ai passé avec le plus de douceur et de tranquillité. Durant 4 ou 5 mois que le mauvais temps me tint davantage à l'abri des survenants, je savourais, plus que je n'ai fait avant et depuis, cette vie indépendante, égale et simple, dont la jouissance ne faisait pour moi qu'augmenter le prix, sans autre compagnie que celle des 2 gouverneuses, en réalité, et celle des 2 cousines en idée. C'est alors surtout que je me félicitais chaque jour davantage du parti que j'avais eu le bon sens de prendre, sans égard aux clameurs de mes amis, fâchés de me voir affranchi de leur tyrannie. Et quand j'appris l'attentat d'un forcené, quand Delaire et Madame d'Épinay me parlaient dans leurs lettres du trouble et de l'agitation qui régnait dans Paris, combien je remerciais le ciel de m'avoir éloigné de ces spectacles d'horreurs et de crimes qui n'eussent fait que nourrir, qu'aigrir l'humeur bilieuse que l'aspect des désordres publics m'avait donnée. Tandis que, ne voyant plus autour de ma retraite que des objets riants et doux, mon cœur ne se livrait qu'à des sentiments aimables. Je note ici avec complaisance le cours des derniers moments paisibles qui m'ont été laissés. Le printemps qui suivit cet hiver si calme vit éclore le germe des malheurs qui me restent à décrire, et dans le tissu desquels on ne verra plus d'intervalles semblables où j'ai eu le loisir de respirer. Je crois pourtant me rappeler que durant cet intervalle de paix et jusqu'au fond de ma solitude, je ne restais pas tout à fait tranquille de la part des Holbachiens. Diderot me suscita quelques tracasseries, et je suis fort trompée si ce n'est durant cet hiver que parut le fils naturel dont j'aurai bientôt à parler. Outre que, par des causes qu'on saura dans la suite, il m'est resté peu de monuments sûrs de cette époque, ceux même qu'on m'a laissés sont très peu précis quant aux dates. Diderot ne datait jamais ses lettres. Madame d'Épinay, Madame d'Oudetot ne dataient guère les leurs que du jour de la semaine. Et Delaire faisait comme elle le plus souvent. Quand j'ai voulu ranger ses lettres dans leur ordre, il a fallu suppléer, en tâtonnant, des dates incertaines sur lesquelles je ne puis compter. Ainsi, ne pouvant fixer avec certitude le commencement de ces brouilleries, j'aime mieux rapporter ci-après, dans un seul article, tout ce que je m'en puis rappeler. Le retour du printemps avait redoublé mon tendre délire, et dans mes érotiques transports, j'avais composé pour les dernières parties de la Julie plusieurs lettres qui se sentent du ravissement dans lequel je les écrivis. Je puis citer, entre autres, celle de l'Élysée et de la promenade sur le lac, qui, si je m'en souviens bien, sont à la fin de la 4e partie. Quiconque, en lisant ces 2 lettres, ne sent pas amollir et fondre son cœur dans l'attendrissement qui me les dicta, doit fermer le livre. Il n'est pas fait pour juger des choses de sentiment. Précisément, dans le même temps, j'eus de Madame d'Oudetot une seconde visite imprévue. En l'absence de son mari, qui était capitaine de gendarmerie, et de son amant, qui servait aussi, elle était venue à Aubonne, au milieu de la vallée de Montmorency, où elle avait loué une assez jolie maison. Ce fut de là qu'elle vint faire à l'ermitage une nouvelle excursion. À ce voyage, elle était à cheval et en homme. Quoique je n'aime guère ces sortes de mascarades, je fus pris à l'air romanesque de celle-là, Et pour cette fois, ce fut de l'amour. Comme il fut le premier et l'unique en toute ma vie, et que ses suites le rendront à jamais mémorable et terrible à mon souvenir, qu'il me soit permis d'entrer dans quelques détails sur cet article. Madame la comtesse d'Houdetot approchait de la trentaine, et n'était point belle. Son visage était marqué de petites véroles, son teint manquait de finesse, elle avait la vue basse et les yeux un peu ronds. Mais elle avait l'air jeune avec tout cela, et sa physionomie, à la fois vive et douce, était caressante. Elle avait fait une forêt de grands cheveux noirs, naturellement bouclés, qui lui tombaient aux jarrets. Sa taille était mignonne, et elle mettait dans tous ses mouvements de la gaucherie et de la grâce tout à la fois. Elle avait l'esprit très naturel et très agréable. La gaieté, l'étourderie et la naïveté s'y mariaient heureusement. Elle abondait en saillies charmantes qu'elle ne recherchait point et qui partaient quelquefois malgré elle. Elle avait plusieurs talents agréables. Jouait du clavecin, dansait bien, faisait d'assez jolis vers. Pour son caractère, il était angélique. La douceur d'âme en faisait le fond. Mais, hors la prudence et la force, il rassemblait toutes les vertus. Elle était surtout d'une telle sûreté dans le commerce, d'une telle fidélité dans la société, que ses ennemis même n'avaient pas besoin de se cacher d'elle. J'entends par ses ennemis ceux, ou plutôt celles, qui la haïssaient, car pour elle, elle n'avait pas un cœur qui pût haïr. Et je crois que cette conformité contribua beaucoup à me passionner pour elle. Dans les confidences de la plus intime amitié, je ne lui ai jamais ouï parler mal des absents, pas même de sa belle-sœur. Elle ne pouvait ni déguiser ce qu'elle pensait à personne, ni même contraindre aucun de ses sentiments. Et je suis persuadée qu'elle parlait de son amant à son mari même, comme elle en parlait à ses amis, à ses connaissances et à tout le monde indifféremment. Enfin, ce qui prouve sans réplique la pureté et la sincérité de son excellent naturel, c'est qu'étant sujette aux plus énormes distractions et aux plus risibles étourderies, il lui en échappait souvent de très imprudentes pour elle-même, mais jamais d'offensantes pour qui que ce fût. On l'avait mariée très jeune, et malgré elle, au comte d'Houdetot. Homme de condition, bon militaire, mais joueur, chicaneur, très peu aimable, et qu'elle n'a jamais aimé. Elle trouva dans M. de Saint-Lambert tous les mérites de son mari, avec les qualités plus agréables, de l'esprit, des vertus, des talents. S'il faut pardonner quelque chose aux mœurs du siècle, c'est sans doute un attachement que sa durée est pure, que ses effets honorent, et qui ne s'est cimenté que par une estime réciproque. C'était un peu par goût, à ce que j'ai pu croire, mais beaucoup pour complaire à Saint-Lambert qu'elle venait me voir. Il l'y avait exhorté, et il avait raison de croire que l'amitié qui commençait à s'établir entre nous rendrait cette société agréable à tous les trois. Elle savait que j'étais instruit de leur liaison, et, pouvant me parler de lui sans gêne, il était naturel qu'elle se plût avec moi. Elle vint, je la vis. J'étais ivre d'amour sans objet. Cette ivresse fascina mes yeux. Cet objet se fixa sur elle. Je vis ma Julie en Madame d'Houdetot. Et bientôt, je ne vis plus que Madame d'Houdetot, mais revêtue de toutes les perfections dont je venais d'orner l'idole de mon cœur. Pour m'achever, elle me parla de Saint-Lambert en amante passionnée. Force contagieuse de l'amour. En l'écoutant, en me sentant auprès d'elle, j'étais saisie d'un frémissement délicieux que je n'avais éprouvé jamais auprès de personne. Elle parlait et je me sentais émue. Je croyais ne faire que m'intéresser à ses sentiments quand j'en prenais de semblables. J'avalais à longs traits la coupe empoisonnée dont je ne sentais encore que la douceur. enfin, sans que je m'en aperçusse et sans qu'elle s'en aperçût, elle m'inspira pour elle-même tout ce qu'elle exprimait pour son amant. Hélas, ce fut bien tard, ce fut bien cruellement brûlé d'une passion non moins vive que malheureuse pour une femme dont le cœur était plein d'un autre amour. Malgré les mouvements extraordinaires que j'avais éprouvés auprès d'elle, je ne m'aperçus pas d'abord de ce qui m'était arrivé. Ce ne fut qu'après son départ que, voulant penser à Julie, je fus frappée de ne pouvoir plus penser qu'à Madame d'Outetot. Alors mes yeux se dessillèrent, je sentis mon malheur, j'en gémis, mais je n'en prévis pas les suites. J'hésitais longtemps sur la manière dont je me conduirais avec elle, comme si l'amour véritable laissait assez de raisons pour suivre des délibérations. Je n'étais pas déterminée quand elle revint me prendre au dépourvu. Pour lors, j'étais instruit. La honte, compagne du mal, me rendit muet, tremblant devant elle. Je n'osais ouvrir la bouche ni lever les yeux. J'étais dans un trouble inexprimable qu'il était impossible qu'elle ne vît pas. Je pris le parti de le lui avouer et de lui en laisser deviner la cause. C'était la lui dire assez clairement. Si j'eusse été jeune et aimable, et que dans la suite Madame d'Outetot eût été faible, je blâmerais ici sa conduite, mais tout cela n'étant pas, je ne puis que l'applaudir et l'admirer. Le parti qu'elle prit était également celui de la générosité et de la prudence. Elle ne pouvait s'éloigner brusquement de moi sans en dire la cause à Saint-Lambert, qu'il avait lui-même engagé à me voir. C'était exposer deux amis à une rupture et peut-être à un éclat qu'elle voulait éviter. Elle avait pour moi de l'estime et de la bienveillance. Elle eut pitié de ma folie. Sans la flatter, elle la plaignit et tâcha de m'en guérir. Elle était bien aise de conserver à son amant et à elle-même un ami dont elle faisait cas. Elle ne me parlait de rien avec plus de plaisir que de l'intime et douce société que nous pourrions former entre nous trois, quand je serais devenue raisonnable. Elle ne se bornait pas toujours à ses exhortations amicales et ne m'épargnait pas au besoin les reproches plus durs que j'avais bien mérités. Je me les épargnais encore moins moi-même. Sitôt que je fus seule, je revins à moi. J'étais plus calme après avoir parlé. L'amour connu de celle qui l'inspire en devient plus supportable. La force avec laquelle je me reprochais le mien m'en eût dû guérir si la chose eût été possible. Quel puissant motif n'appelais-je point à mon aide pour l'étouffer? Mes mœurs, mes sentiments, mes principes, la honte, l'infidélité, le crime, l'abus d'un dépôt confié par l'amitié, le ridicule, enfin, de brûler à mon âge de la passion la plus extravagante pour un objet dont le cœur préoccupé ne pouvait ni me rendre aucun retour, ni me laisser aucun espoir. Passion de plus qui, loin d'avoir rien à gagner par la constance, devenait moins souffrable de jour en jour. Qui croirait que cette dernière considération, qui devait ajouter du poids à toutes les autres, fut celle qui les éluda? Quel scrupule, pensais-je, puis-je me faire d'une folie nuisible à moi seule? Suis-je donc un jeune cavalier fort à craindre pour Madame d'Outetot? Ne dirait-on pas à mes présomptueux remords que ma galanterie, mon air, ma parure vont la séduire? Eh, pauvre Jean-Jacques, aime à ton aise, en sûreté de conscience, et ne crains pas que tes soupirs nuisent à Saint-Lambert. On a vu que jamais je ne fus avantageux, même dans ma jeunesse. Cette façon de penser était dans mon tour d'esprit, elle flattait ma passion. C'en fut assez pour m'y livrer sans réserve et rire même de l'impertinent scrupule que je croyais m'être fait par vanité plus que par raison. Grande leçon pour les âmes honnêtes que le vice n'attaque jamais à découvert, mais qu'il trouve le moyen de surprendre en se masquant toujours de quelque sophisme et souvent de quelques vertus. Coupable sans remords, je le fus bientôt sans mesure. Et de grâce, qu'on voit comment ma passion suivit la trace de mon naturel pour m'entraîner enfin dans l'abîme. D'abord, elle prit un air humble pour me rassurer, et pour me rendre entreprenant, elle poussa cette humilité jusqu'à la défiance. Madame Douteteux, sans cesser de me rappeler à mon devoir, à la raison, sans jamais flatter un moment ma folie, me traitait au reste avec la plus grande douceur et prit avec moi le ton de l'amitié la plus tendre. Cette amitié m'eût suffi, je le proteste, si je l'avais cru sincère. Mais, la trouvant trop vive pour être vraie, n'allais-je pas me fourrer dans la tête que l'amour, désormais si peu convenable à mon âge, à mon maintien, m'avait avili aux yeux de Madame Douteteux, que cette jeune folle ne voulait que se divertir de moi et de mes douceurs surannées, qu'elle en avait fait confidence à Saint-Lambert, et que l'indignation de mon infidélité ayant fait entrer son amant dans ses vues, ils s'entendaient tous les deux pour achever de me faire tourner la tête et me persifler. Cette bêtise qui m'avait fait extravaguer à 26 ans auprès de Madame de Larnage, que je ne connaissais pas, m'eût été pardonnable à 45 auprès de Madame Douteteux, si j'eusse ignoré qu'elle et son amant étaient trop honnêtes gens l'un et l'autre pour se faire un aussi barbare amusement. Madame Douteteux continuait à me faire des visites que je ne tardais pas à lui rendre. Elle aimait à marcher ainsi que moi. Nous faisions de longues promenades dans un pays enchanté. Content d'aimer et de l'oser dire, j'aurais été dans la plus douce situation si mon extravagance n'en eût détruit tout le charme. Elle ne comprit rien d'abord à la sotte humeur avec laquelle je recevais ses caresses. Mais mon cœur, incapable de savoir jamais rien cacher de ce qui s'y passe, ne lui laissa pas longtemps ignorer mes soupçons. Elle en voulut rire. Cet expédient ne réussit pas. Des transports de rage en auraient été l'effet. Elle changea de ton. Sa compatissante douceur fut invincible. Elle me fit des reproches qui me pénétrèrent. Elle me témoigna, sur mes injustes craintes, des inquiétudes dont j'abusais. J'exigeais des preuves qu'elle ne se moquait pas de moi. Elle vit qu'il n'y avait nul moyen de me rassurer. Je devins pressant. Le pas était délicat. Il est étonnant, il est unique peut-être, qu'une femme, ayant pu venir jusqu'à marchander, s'en soit tirée à si bon compte. Elle ne me refusa rien de ce que la plus tendre amitié pouvait accorder. Elle ne m'accorda rien qui pût la rendre infidèle, et j'eus l'humiliation de voir que l'embrasement dont ses légères faveurs allumaient mes sens n'emporta jamais au sien la moindre étincelle. J'ai dit quelque part qu'il ne faut rien accorder aux sens quand on veut leur refuser quelque chose. Pour connaître combien cette maxime se trouva fausse avec Madame Douteteux et combien elle eut raison de compter sur elle-même, il faudrait entrer dans les détails de nos longs et fréquents tête-à-tête et les suivre dans toute leur vivacité durant 4 mois que nous passâmes ensemble, dans une intimité presque sans exemple entre deux amis de différents sexes, qui se renferment dans les bornes dont nous ne sortîmes jamais. Ah, si j'avais tardé si longtemps à sentir le véritable amour, qu'alors mon cœur et mes sens lui payèrent bien l'arrérage. Et quels sont donc les transports qu'on doit éprouver auprès d'un objet aimé qui nous aime, si même un amour non partagé peut en inspirer de pareils? Mais j'ai tort de dire un amour non partagé. Le mien l'était en quelque sorte. Il était égal des deux côtés, quoiqu'il ne fût pas réciproque. Nous étions ivres d'amour l'un et l'autre, elle pour son amant, moi pour elle. Nos soupirs, nos délicieuses larmes se confondaient. Tendres confidents l'un de l'autre, Nos sentiments avaient tant de rapport qu'il était impossible qu'ils ne se mêlassent pas en quelque chose. Et toutefois, au milieu de cette dangereuse ivresse, jamais elle ne s'est oubliée un moment. Et moi, je proteste, je jure que si, quelquefois égarée par mes sens, j'ai tenté de la rendre infidèle, jamais je ne l'ai véritablement désirée. La véhémence de ma passion la contenait par elle-même. Le devoir des privations avait exalté mon âme. L'éclat de toutes les vertus ornait à mes yeux l'idole de mon cœur. En souiller la divine image eût été l'anéantir. J'aurais pu commettre le crime. Il a 100 fois été commis dans mon cœur. Mais avilir ma Sophie, ah, cela se pouvait-il jamais? Non, non, je le lui ai 100 fois dit à elle-même. Eussé-je été le maître de me satisfaire, sa propre volonté l'eût-elle mise à ma discrétion? Or, quelques courts moments de délire, j'aurais refusé d'être heureux à ce prix. Je l'aimais trop pour vouloir la posséder. Il y a près d'une lieue de l'ermitage à Aubonne. Dans mes fréquents voyages, il m'est arrivé quelquefois d'y coucher. Un soir, après avoir soupé tête à tête, nous allâmes nous promener au jardin, par un très beau clair de lune. Au fond de ce jardin était un assez grand taillis, par où nous fûmes chercher un joli bosquet, orné d'une cascade dont je lui avais donné l'idée et qu'elle avait fait exécuter. Souvenir immortel, d'innocence et de jouissance. Ce fut dans ce bosquet qu'assis avec elle sur un banc de gazon, sous un acacia tout chargé de fleurs, je trouvais, pour rendre les mouvements de mon cœur, un langage vraiment digne d'eux. Ce fut la première et l'unique fois de ma vie, mais je fus sublime, si l'on peut nommer ainsi, tout ce que l'amour le plus tendre et le plus ardent peut porter d'aimable et de séduisant dans un cœur d'homme. Que d'enivrantes larmes je versais sur ses genoux, que je lui en fis verser malgré elle. Enfin, dans un transport involontaire, elle s'écria « Non, jamais homme ne fut si aimable, et jamais amant n'aima comme vous. Mais votre ami Saint-Lambert nous écoute, et mon cœur ne saurait aimer 2 fois. » Je me tus en soupirant. Je l'embrassai. Quel embrassement! Mais ce fut tout. Il y avait 6 mois qu'elle vivait seule, c'est-à-dire loin de son amant et de son mari. Il y en avait 3 que je la voyais presque tous les jours. Et toujours l'amour entier entre elle et moi. Nous avions soupé tête à tête, nous étions seuls, dans un bosquet au clair de lune, et après 2 heures de l'entretien le plus vif et le plus tendre, elle sortit au milieu de la nuit de ce bosquet et des bras de son ami, aussi intacte, aussi pure de corps et de cœur qu'elle y était entrée. Lecteur, pesez toutes ces circonstances, je n'ajouterai rien de plus. Et qu'on n'aille pas s'imaginer qu'ici mes sens me laissaient tranquille, comme auprès de Thérèse et de maman. Je l'ai déjà dit, c'était de l'amour cette fois. Et l'amour dans toute son énergie et dans toutes ses fureurs. Je ne décrirai ni les agitations, ni les frémissements, ni les palpitations, ni les mouvements convulsifs, ni les défaillances du cœur que j'éprouvais continuellement. On en pourra juger par l'effet que sa seule image faisait sur moi. J'ai dit qu'il y avait loin de l'ermitage à Aubonne. Je passais par les coteaux d'Andilly, qui sont charmants. Je rêvais en marchant à celle que j'allais voir, à l'accueil caressant qu'elle me ferait, au baiser qui m'attendait à mon arrivée. Ce seul baiser, ce baiser funeste, avant même de le recevoir, m'embrasait le sang à tel point que ma tête se troublait. Un éblouissement m'aveuglait, mes genoux tremblants ne pouvaient me soutenir. J'étais forcée de m'arrêter, de m'asseoir. Toute ma machine était dans un désordre inconcevable. J'étais prête à m'évanouir. Instruit du danger, je tâchais, en partant, de me distraire et de penser à autre chose. Je n'avais pas fait 20 pas que les mêmes souvenirs et tous les accidents qui en étaient la suite revenaient m'assaillir sans qu'il me fût possible de m'en délivrer. Et de quelque façon que je m'y sois pu prendre, je ne crois pas qu'il me soit arrivé de faire seul ce trajet impunément. J'arrivais à Aubonne, faible, épuisé, rendu, me soutenant à peine. À l'instant que je la voyais, tout était réparé. Je ne sentais plus auprès d'elle que l'importunité d'une vigueur inépuisable et toujours inutile. Il y avait sur ma route, à la vue d'Aubonne, une terrasse agréable, appelée le Mont Olympe, où nous nous rendions quelquefois, chacun de notre côté. J'arrivais le premier. J'étais fait pour l'attendre. Mais que cette attente me coûtait cher. Pour me distraire, j'essayais d'écrire avec mon crayon des billets que j'aurais pu tracer du plus pur de mon sang. Je n'en ai jamais pu achever un qui fût lisible. Quand elle en trouvait un dans la niche dont nous étions convenus, elle n'y pouvait voir autre chose que l'état vraiment déplorable où j'étais en l'écrivant. Cet état, et surtout sa durée pendant 3 mois d'irritation continuelle et de privation, me jeta dans un épuisement dont je n'ai pu me tirer de plusieurs années, et finit par me donner une descente que j'emporterai ou qui m'emportera au tombeau. Telle a été la seule jouissance amoureuse de l'homme du tempérament le plus combustible, mais le plus timide en même temps, que peut-être la nature ait jamais produit. Tels ont été les derniers beaux jours qui m'aient été comptés sur la terre. Ici commence le long tissu des malheurs de ma vie, où l'on verra peu d'interruptions. On a vu, dans tout le cours de ma vie, que mon cœur, transparent comme le cristal, n'a jamais su cacher, durant une minute entière, un sentiment un peu vif qui s'y fut réfugié. Qu'on juge s'il me fut possible de cacher longtemps mon amour pour Madame Doudeton. Notre intimité frappait tous les yeux, nous n'y mettions ni secret ni mystère. Elle n'était pas de nature à en avoir besoin. Et comme Madame Doudeton avait pour moi l'amitié la plus tendre, qu'elle ne se reprochait point, que j'avais pour elle une estime dont personne ne connaissait mieux que moi toute la justice, elle, franche, distraite, étourdie, moi, vrai, maladroit, fier, impatient, emporté, nous donnions encore sur nous, dans notre trompeuse sécurité, beaucoup plus de prise que nous n'aurions fait si nous eussions été coupables. Nous allions l'un et l'autre à la Chevrette, nous nous y trouvions souvent ensemble, quelquefois même par rendez-vous. Nous y vivions à notre ordinaire, nous promenant tous les jours tête à tête, en parlant de nos amours, de nos devoirs, de notre ami, de nos innocents projets. Dans le parc, vis-à-vis l'appartement de Madame d'Épinay, sous ses fenêtres, d'où, ne cessant de nous examiner, et se croyant bravée, elle assouvissait son cœur par ses yeux, de rage et d'indignation. Les femmes ont toute l'art de cacher leur fureur, surtout quand elle est vive. Madame d'Épinay, violente mais réfléchie, possède surtout cet art éminemment. Elle feignit de ne rien voir, de ne rien soupçonner. Et dans le même temps qu'elle redoublait avec moi d'attention, de soins et presque d'agacerie, elle affectait d'accabler sa belle-sœur de procédés malhonnêtes et de marques d'un dédain qu'elle semblait vouloir me communiquer. On juge bien qu'elle ne réussissait pas, mais j'étais au supplice. Déchirée de sentiments contraires, en même temps que j'étais touchée de ses caresses, j'avais peine à contenir ma colère quand je la voyais manquer à Madame Doudeton. La douceur angélique de celle-ci lui faisait tout endurer sans se plaindre, et même sans lui en savoir plus mauvais gré. Elle était d'ailleurs souvent si distraite et toujours si peu sensible à ces choses-là que, la moitié du temps, elle ne s'en apercevait pas. J'étais si préoccupée de ma passion que, ne voyant rien que Sophie, C'était un des noms de Madame Doudetot. Je ne remarquai pas même que j'étais devenue la fable de toute la maison et des survenants. Le baron d'Holbach, qui n'était jamais venu, que je sache, à la Chevrette, fut au nombre de ces derniers. Si j'eusse été aussi défiant que je le suis devenu dans la suite, j'aurais fort soupçonné Madame d'Épinay d'avoir arrangé ce voyage pour lui donner l'amusant cadeau de voir le citoyen amoureux. Mais j'étais alors si bête que je ne voyais pas même ce qui crevait les yeux à tout le monde. Toute ma stupidité ne m'empêcha pourtant pas de trouver au baron l'air plus content, plus jovial qu'à son ordinaire. Au lieu de me regarder en noir, selon sa coutume, il me lâchait sans propos goguenards auxquels je ne comprenais rien. J'ouvrais de grands yeux sans rien répondre. Madame d'Épinay se tenait les côtes de rire. Je ne savais sur quelle herbe ils avaient marché. Comme rien ne passait encore les bornes de la plaisanterie, tout ce que j'aurais eu de mieux à faire, si je m'en étais aperçu, eût été de m'y prêter. Mais il est vrai qu'à travers la railleuse gaieté du baron, l'on voyait briller dans ses yeux une maligne joie qui m'aurait peut-être inquiété si je l'eusse aussi bien remarqué alors que je me la rappelais dans la suite. Un jour que j'allais voir Madame Doudetot à Aubonne, au retour d'un de ses voyages à Paris, je la trouvai triste et je vis qu'elle avait pleuré. Je fus obligée de me contraindre parce que Madame de Blainville, sœur de son mari, était là. Mais, sitôt que je pus trouver un moment, je lui marquai mon inquiétude. « Ah !» me dit-elle en soupirant, « je crains bien que vos folies ne me coûtent le repos de mes jours. Saint Lambert est instruit, et mal instruit. Il me rend justice. Mais il a de l'humeur, dont, qui pisait, il me cache une partie. » Heureusement, je ne lui ai rien tu de nos liaisons, qui se sont faites sous ses auspices. Mes lettres étaient pleines de vous, ainsi que mon cœur. Je ne lui ai caché que votre amour insensé, dont j'espérais vous guérir, et dont, sans m'en parler, je vois qu'il me fait un crime. On nous a desservis, on m'a fait tort, mais n'importe. Ou rompons tout à fait, ou soyez tel que vous devez être. Je ne veux plus rien avoir à cacher à mon amant. » Ce fut là le premier moment où je fus sensible à la honte de me voir humiliée par le sentiment de ma faute devant une jeune femme dont j'éprouvais les justes reproches et dont j'aurais dû être le mentor. L'indignation que j'en ressentis contre moi-même eût suffi peut-être pour surmonter ma faiblesse, si la tendre compassion que m'inspirait la victime n'eût encore amolli mon cœur. Hélas, était-ce le moment de pouvoir l'endurcir lorsqu'il était inondé par des larmes qui le pénétraient de toutes parts? Cet attendrissement se changea bientôt en colère contre les vils délateurs qui n'avaient vu que le mal d'un sentiment criminel, mais involontaire, sans croire, sans imaginer même la sincère honnêteté de cœur qui le rachetait. Nous ne restâmes pas longtemps en doute sur la main dont partait le coup. Nous savions l'un et l'autre que Madame d'Épinay était en commerce de lettres avec Saint-Lambert. Ce n'était pas le premier orage qu'elle avait suscité à Madame Doudetot, dont elle avait fait mille efforts pour le détacher, et que les succès de quelques-uns de ses efforts faisaient trembler pour la suite. D'ailleurs, Grimm, qui, ce me semble, avait suivi M. de Castries à l'armée, était en Westphalie, aussi bien que Saint-Lambert. Il se voyait quelquefois. Grimm avait fait, auprès de Madame Doudetot, quelques tentatives qui n'avaient pas réussi. Grimm, très piqué, cessa tout à fait de la voir. Qu'on juge du sang-froid avec lequel, modeste comme on sait qu'il est, il lui supposait des préférences pour un homme plus âgé que lui, et dont lui, Grimm, depuis qu'il fréquentait les grands, ne parlait plus que comme de son protégé. Mes soupçons sur Madame d'Épinay se changèrent en certitude quand j'appris ce qui s'était passé chez moi. Quand j'étais à la Chevrette, Thérèse y venait souvent, soit pour m'apporter mes lettres, soit pour me rendre des soins nécessaires à ma mauvaise santé. Madame d'Épinay lui avait demandé si nous ne nous écrivions pas, Madame Doudetot et moi. Sur son aveu, Madame d'Épinay la pressa de lui remettre les lettres de Madame Doudetot, l'assurant qu'elle les recachèterait si bien qu'il n'y paraîtrait pas. Thérèse, sans montrer combien cette proposition la scandalisait, et même sans m'avertir, se contenta de mieux cacher les lettres qu'elle m'apportait. Précaution très heureuse, car Madame d'Épinay la faisait guetter à son arrivée, et, l'attendant au passage, poussa plusieurs fois l'audace jusqu'à chercher dans sa bavette. Elle fit plus. S'étant un jour invitée à venir, avec Monsieur de Margency, dîner à l'Ermitage, pour la première fois depuis que j'y demeurais, elle prit le temps que je me promenais avec Margency pour entrer dans mon cabinet avec la mère et la fille et les presser de lui montrer les lettres de Madame Doudetot. Si la mère eût su où elles étaient, les lettres étaient livrées. Mais heureusement, la fille seule le savait et nia que j'en eusse conservé aucune. Mensonge assurément plein d'honnêteté, de fidélité, de générosité, tandis que la vérité n'eût été qu'une perfidie. Madame d'Épinay, voyant qu'elle ne pouvait la séduire, s'efforça de l'irriter par la jalousie, en lui reprochant sa facilité et son aveuglement. « Comment pouvez-vous, lui dit-elle, ne pas voir qu'ils ont entre eux un commerce criminel ? Si, malgré tout ce qui frappe vos yeux, vous avez besoin d'autres preuves, prêtez-vous donc à ce qu'il faut faire pour les avoir. Vous dites qu'il déchire les lettres de Madame Doudetot aussitôt qu'il les a lues. Eh bien, recueillez avec soin les pièces et donnez-les-moi. Je me charge de les rassembler. » Telles étaient les leçons que mon ami donnait à ma compagne. Thérèse eut la discrétion de me taire assez longtemps toutes ses tentatives. Mais voyant mes perplexités, elle se crut obligée à me tout dire, afin que, sachant à qui j'avais affaire, je prisse mes mesures pour me garantir des trahisons qu'on me préparait. Mon indignation, ma fureur ne peut se décrire. Au lieu de dissimuler avec Madame d'Épinay, à son exemple, et de me servir de contre-ruse, je me livrais sans mesure à l'impétuosité de mon naturel, et avec mon étourderie ordinaire, j'éclatais tout ouvertement. On peut juger de mon imprudence par les lettres suivantes, qui montrent suffisamment la manière de procéder de l'un et de l'autre en cette occasion. Billet de Madame d'Épinay, Lias A, numéro 44. Pourquoi donc ne vous vois-je pas, mon cher ami ? Je suis inquiète de vous. Vous m'aviez tant promis de ne faire qu'aller et venir de l'Ermitage ici. Sur cela, je vous ai laissé libre. Et point du tout, vous laissez passer 8 jours. Si l'on ne m'avait pas dit que vous étiez en bonne santé, je vous croirais malade. Je vous attendais avant-hier ou hier, et je ne vous vois point arriver. Mon Dieu, qu'avez-vous donc ? Vous n'avez point d'affaires, vous n'avez pas non plus de chagrin, car je me flatte que vous seriez venu sur le champ me les confier. Vous êtes donc malade. Tirez-moi d'inquiétude bien vite, je vous en prie. Adieu, mon cher ami. Que cet adieu me donne un bonjour de vous. » Réponse. Ce mercredi matin. Je ne puis rien vous dire encore. J'attends d'être mieux instruit et je le serai tôt ou tard. En attendant, soyez sûr que l'innocence accusée trouvera un défenseur assez ardent pour donner quelque repentir au calomniateur, quel qu'il soit. Second billet de la même liasse A, numéro 45. Savez-vous que votre lettre m'effraie ? Qu'est-ce qu'elle veut donc dire ? Je l'ai relue plus de 25 fois. En vérité, je n'y comprends rien. J'y vois seulement que vous êtes inquiet et tourmenté, et que vous attendez que vous ne le soyez plus pour m'en parler. Mon cher ami, est-ce là ce dont nous étions convenus ? Qu'est donc devenue cette amitié et cette confiance ? Et comment l'ai-je perdue ? Est-ce contre moi ou pour moi que vous êtes fâché ? Quoi qu'il en soit, venez dès ce soir, je vous en conjure. Souvenez-vous que vous m'avez promis, il n'y a pas 8 jours, de ne rien garder sur le cœur et de me parler sur le champ. Mon cher ami, je vis dans cette confiance. Tenez, je viens encore de lire votre lettre. Je n'y conçois pas davantage, mais elle me fait trembler. Il me semble que vous êtes cruellement agité. Je voudrais vous calmer, mais comme j'ignore le sujet de vos inquiétudes, je ne sais que vous dire, sinon que me voilà tout aussi malheureuse que vous, jusqu'à ce que je vous ai vue. Si vous n'êtes pas ici ce soir à 6 heures, je pars demain pour l'ermitage, quelque temps qu'il fasse et dans quelque état que je sois, car je ne saurais tenir à cette inquiétude. Bonjour, mon cher ami. À tout hasard, je risque de vous dire, sans savoir si vous en avez besoin ou non, de tâcher de prendre garde et d'arrêter les progrès que fait l'inquiétude dans la solitude. Une mouche devient un monstre, je l'ai souvent éprouvé. Réponse. Ce mercredi soir, je ne puis vous aller voir ni recevoir votre visite tant que durera l'inquiétude où je suis. La confiance dont vous parlez n'est plus, et il ne vous sera pas aisé de la recouvrer. Je ne vois à présent, dans votre empressement, que le désir de tirer des aveux d'autrui quelque avantage qui convienne à vos vues. Et mon cœur, si prompt à s'épancher dans un cœur qui s'ouvre pour le recevoir, se ferme à la ruse et à la finesse. Je reconnais votre adresse ordinaire dans la difficulté que vous trouvez à comprendre mon billet. Me croyez-vous assez dupe pour penser que vous ne l'ayez pas compris? Non. Mais je saurai vaincre vos subtilités à force de franchise. Je vais m'expliquer plus clairement, afin que vous m'entendiez encore moins. Deux amants, bien unis et dignes de s'aimer, me sont chers. Je m'attends bien que vous ne saurez pas qui je veux dire, à moins que je ne vous les nomme. Je présume qu'on a tenté de les désunir, et que c'est de moi qu'on s'est servi pour donner de la jalousie à l'un des deux. Le choix n'est pas fort adroit, mais il a paru commode à la méchanceté. Et cette méchanceté, c'est vous que j'en soupçonne. J'espère que ceci devient plus clair. Ainsi donc, la femme que j'estime le plus aurait, de mon su, l'infamie de partager son cœur et sa personne entre deux amants. Et moi, celle d'être un de ces deux lâches? Si je savais qu'un seul moment de la vie vous eussiez pu penser ainsi d'elle et de moi, je vous haïrais jusqu'à la mort. Mais c'est de l'avoir dit et non de l'avoir cru que je vous taxe. Je ne comprends pas, en pareil cas, auquel c'est des trois que vous avez voulu nuire. Mais si vous aimez le repos, craignez d'avoir eu le malheur de réussir. Je n'ai caché ni à vous ni à elle tout le mal que je pense de certaines liaisons. Mais je veux qu'elle finisse par un moyen aussi honnête que sa cause, et qu'un amour illégitime se change en une éternelle amitié. Moi, qui ne fis jamais de mal à personne, servirai-je innocemment à en faire à mes amis? Non, je ne vous le pardonnerai jamais. Je deviendrai votre irréconciliable ennemi. Vos secrets seuls seraient respectés, car je ne serai jamais un homme sans foi. Je n'imagine pas que les perplexités où je suis puissent durer bien longtemps. Je ne tarderai pas à savoir si je me suis trompée. Alors, j'aurai peut-être de grands torts à réparer, et je n'aurai rien fait en ma vie de si bon cœur. Mais savez-vous comment je rachèterai mes fautes durant le peu de temps qui me reste à passer près de vous? En faisant ce que nul autre ne fera que moi, en vous disant franchement ce qu'on pense de vous dans le monde, et les brèches que vous avez à réparer à votre réputation. Malgré tous les prétendus amis qui vous entourent, quand vous m'aurez vu partir, vous pourrez dire adieu à la vérité. Vous ne trouverez plus personne qui vous la dise. Troisième billet de la même liasse A, numéro 46. Je n'entendais pas votre lettre de ce matin. Je vous l'ai dit, parce que cela était. J'entends celle de ce soir. N'ayez pas peur que j'y réponde jamais. Je suis trop pressée de l'oublier. Et quoique vous me fassiez pitié, je n'ai pu me défendre de l'amertume dont elle me remplit l'âme. Moi, usée de ruse, de finesse avec vous? Moi, accusée de la plus noire des infamies? Adieu, je regrette que vous ayez la... Adieu, je ne sais ce que je dis. Adieu, je serai bien pressée de vous pardonner. Vous viendrez quand vous voudrez. Vous serez mieux reçu que ne l'exigeraient vos soupçons. Dispensez-vous seulement de vous mettre en peine de ma réputation. Peu m'importe celle qu'on me donne. Ma conduite est bonne et cela me suffit. Au surplus, j'ignorais absolument ce qui est arrivé aux deux personnes qui me sont aussi chères qu'à vous. » Cette dernière lettre me tira d'un terrible embarras et me replongea dans un autre qui n'était guère moindre. Quoique toutes ces lettres et réponses fussent allées et venues dans l'espace d'un jour avec une extrême rapidité, cet intervalle avait suffi pour en mettre entre mes transports de fureur et pour me laisser réfléchir sur l'énormité de mon imprudence. Madame Doudeteau ne m'avait rien tant recommandé que de rester tranquille, de lui laisser le soin de se tirer seule de cette affaire et d'éviter, surtout dans le moment même, toute rupture et tout éclat. Et moi, par les insultes les plus ouvertes et les plus atroces, j'allais achever de porter la rage dans le cœur d'une femme qui n'y était déjà que trop disposée. Je ne devais naturellement attendre de sa part qu'une réponse si fière, si dédaigneuse, si méprisante, que je n'aurais pu, sans la plus indigne lâcheté, m'abstenir de quitter sa maison sur le champ. Heureusement, plus adroite encore que je n'étais emportée, elle évita, par le tour de sa réponse, de me réduire à cette extrémité. Mais il fallait ou sortir ou l'aller voir sur le champ. L'alternative était inévitable. Je pris le dernier parti, fort embarrassé de ma contenance, dans l'explication que je prévoyais. Car comment m'en tirer sans compromettre ni Madame Doudeteau ni Thérèse? Et malheur à celle que j'aurais nommée. Il n'y avait rien que la vengeance d'une femme implacable et intrigante ne me fît craindre pour celle qui en serait l'objet. C'était pour prévenir ce malheur que je n'avais parlé que de soupçons dans mes lettres, afin d'être dispensé d'énoncer mes preuves. Il est vrai que cela rendait mes emportements plus inexcusables. Nul simple soupçon ne pouvant m'autoriser à traiter une femme, et surtout une amie, comme je venais de traiter Madame d'Épinay. Mais ici commence la grande et noble tâche que j'ai dignement remplie d'expier mes fautes et mes faiblesses cachées, en me chargeant de fautes plus graves dont j'étais incapable et que je ne commis jamais. Je n'eus plus à soutenir la prise que j'avais redoutée, et j'en fus quitte pour la peur. À mon abord, Madame d'Épinay me sauta au cou en fondant en larmes. Cet accueil inattendu et de la part d'une ancienne amie m'émut extrêmement. Je pleurais beaucoup aussi. Je lui dis quelques mots qui n'avaient pas grand sens, elle m'en dit quelques-uns qui en avaient encore moins, et tout finit là. On avait servi. Nous allâmes à table, où, dans l'attente de l'explication, que je croyais remise après le souper, je fis mauvaise figure, car je suis tellement subjuguée par la moindre inquiétude qui m'occupe que je ne saurais la cacher au moins clairvoyant. Mon air embarrassé devait lui donner du courage. Cependant, elle ne risqua point l'aventure. Il n'y eut pas plus d'explications après le souper qu'avant. Il n'y en eut pas plus le lendemain, et nos silencieux tête-à-tête ne furent remplis que de choses indifférentes ou de quelques propos honnêtes de ma part, par lesquels, lui témoignant ne pouvoir encore rien prononcer sur le fondement de mes soupçons, je lui protestais avec bien de la vérité que s'ils se trouvaient mal fondés, ma vie entière serait employée à réparer leur injustice. Elle ne marqua pas la moindre curiosité de savoir précisément quels étaient ses soupçons, ni comment il m'était venu. Et tout notre raccommodement, tant de sa part que de la mienne, consista dans l'embrassement du premier abord. Puisqu'elle était seule offensée, au moins dans la forme, il me parut que ce n'était pas à moi de chercher un éclaircissement qu'elle ne cherchait pas elle-même. Et je m'en retournai, comme j'étais venu. Continuant au reste à vivre avec elle comme auparavant, j'oubliai bientôt presque entièrement cette querelle, et je crus bêtement qu'elle l'oubliait elle-même, parce qu'elle paraissait ne s'en plus souvenir.